BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, alors, on a confirmation que ce marché-là résiste quasiment à tout. Quasiment à tout. C'est le marché de l'emploi des cadres. On a battu des records. On devrait encore embaucher beaucoup de cadres cette année. On va voir ça dans un instant. Et puis, on va parler, bien sûr, du gouvernement qui est toujours en mode chasse aux milliards.
Hein, et oui, avec toujours autant de pistes qui circulent. Gabriel Attal a fait un geste vers l'aile gauche de sa majorité aujourd'hui. Il réclame des propositions pour taxer les rentes avec la question qui revient sur le tapis de l'Agirc-Arrco. Et puis, on dira un mot de ce rapport très attendu qui est sorti tout à l'heure. Comment maintenir l'assurabilité du territoire français face à la multiplication des incidents climatiques? Alors, la réponse est simple. Il va falloir responsabiliser tout le monde, État, collectivités, particuliers et entreprises, et puis faire bien sûr de la prévention.
Et qui sera avec nous pour parler de tout ça, entre autres dans un quart d'heure, Sébastien Lay va revenir, Stéphanie Villers va revenir, et puis Franck Boisy, journaliste économique à Libération, sera avec nous. Voilà le programme, non exhaustif bien sûr, jusqu'à 20h.
A tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc oui, on le disait, il y a quand même des fondamentaux auxquels on peut se raccrocher, c'est tant mieux. Bonsoir Raphaël Couder. La bonne nouvelle du jour, c'est l'APEC qui dit on va continuer à recruter des cadres cette année. Moins que l'an dernier, mais on va quand même en recruter encore beaucoup en 2024, Raphaël.
Absolument, les entreprises vont recruter cette année environ 337 000 cadres selon les projections de l'APEC. Ça correspond à une hausse d'environ 2% par rapport à l'année dernière. En 2023, c'était 7% d'embauches supplémentaires. Donc effectivement, on le voit, l'intensité des recrutements ralentit, mais globalement, ce marché de l'emploi des cadres continue tout de même de croître légèrement. Dans le détail, c'est très contrasté selon les différents secteurs d'activité. Les services à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire l'ingénierie, l'informatique, la R&D sont toujours très bien orientés. Bonne surprise également, l'industrie va poursuivre ses recrutements. En face, en revanche, la construction et l'immobilier s'enfoncent dans la crise. Il y aura moins de recrutement de cadres dans ces secteurs cette année. Au niveau géographique, la dynamique continue d'être portée par les traditionnelles places fortes de l'emploi cadre. L'Île-de-France, par exemple, devrait représenter cette année près d'une embauche de cadres sur deux. Contraction des embauches attendues en revanche en Nouvelle-Aquitaine ou dans les Hauts-de-France. De légers reculs qui sont toutefois à relativiser, nous dit l'APEC, car les niveaux de recrutement resteront cette année proches des records atteints en 2023.
Marché des cadres, merci beaucoup Raphaël. Et puis donc le directeur général de l'APEC, Gilles Gâteau, qui sera l'invité de BFM Business, ce sera demain matin en direct à 8h15. Pendant ce temps, je vous le disais, le gouvernement continue à lancer des pistes pour trouver quelques milliards de plus. Et là, bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Là, on est sur un terrain sensible. Il a demandé à ses députés de lui faire des propositions pour taxer les rentes. Et il veut un retour d'ici le mois de juin sur ce sujet, Thomas.
Exactement, Guillaume. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Le Premier ministre veut recadrer le débat parce qu'il voit bien que sa majorité part un peu dans tous les sens sur ces questions de hausse d'impôts. D'un côté, vous avez l'aile gauche de la majorité qui pousse pour des hausses d'impôts ciblées. Des élus influents de la majorité, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, le président de la commission des lois, Sacha Houlier, ou encore le président du groupe Modem à l'Assemblée, Jean-Paul Mattei, veulent que les entreprises contribuent davantage à l'effort de rétablissement des comptes publics. En face, vous avez l'aile droite de la majorité des poids lourds, comme le rapporteur du budget à l'Assemblée, Jean-René Cazeneuve, le whip de la majorité à la commission des finances, Mathieu Lefèvre, qui ne veulent pas de ces hausses d'impôts ciblées. Et puis au milieu, vous avez le Premier ministre qui essaie de trouver la ligne de crête. Il avait réaffirmé la semaine dernière aux 20h de TF1 son opposition à des hausses d'impôts sur les ménages et les entreprises, mais il avait dit aussi, je le cite, qu'il n'avait jamais eu de dogme sur le sujet des super profits. Il avait rappelé que les énergéticiens et les laboratoires de biologie médicale avaient eu droit à une taxe spécifique. Et on saura donc au mois de juin, au plus tard, à l'issue de cette mission, si de nouveaux secteurs ou entreprises seront concernés pour le budget 2025.
Mais François Hollande avait ses frondeurs, donc pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'aurait pas les siens finalement? Voilà, c'était un vaste.
On n'est pas là, mais ça commence à ressembler.
Ça commence un petit peu à s'agiter au sein de la majorité. Ouais. Cette hausse rongée qui a été donnée aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Et puis alors, vous savez qu'au milieu de tout ça, dans trois semaines, le 26 avril, les agences de notation Fitch et Moody's sont susceptibles de dégrader la note de la France. Beaucoup le voient venir gros comme une maison, sauf que Fitch a clairement laissé entendre tout à l'heure qu'en fait, elle pourrait ne toucher à rien. Toute nouvelle décision négative est conditionnée à une nouvelle hausse importante de l'endettement que nous jugeons improbable. Voilà ce qu'a dit Fitch très exactement dans un communiqué qui est sorti à la mi-journée. Mais donc, on aura le fin mot de l'histoire, évidemment, le 26 avril prochain, donc dans un peu plus de trois semaines. Dans l'actualité, on voulait vous parler de ce rapport qui est sorti aujourd'hui, le rapport Langrenet sur l'assurabilité des risques climatiques en France. Il a été repoussé à plusieurs reprises. Bonsoir Alexandra Paget.
Bonsoir.
Document de 116 pages qui propose de nombreuses pistes qui sont parfois, disons-le clairement, assez radicales, Alexandra.
Oui, alors d'abord, il faut déjà dire que ce rapport était très attendu. Il était prêt depuis le 22 décembre. Il faut dire qu'il y a urgence, Guillaume, au regard des nouvelles intempéries et inondations qui ont touché plusieurs régions de France ce week-end. Alors, ces catastrophes naturelles à répétition ont un coût exponentiel. C'est bien tout le sujet. 6,5 milliards l'année dernière. Le gouvernement prévoit 70 milliards d'euros d'indemnisation additionnelle dans les trois prochaines décennies. Et ça fait peser le spectre d'un retrait des assureurs des régions les plus vulnérables. Alors, pour éviter ça, la première piste de Thierry Langrenet, que vous allez recevoir tout à l'heure, c'est la prime CatNat, catastrophe naturelle. Des particuliers et des entreprises, ils voudraient l'augmenter chaque année. Les auteurs du rapport préconisent une hausse de 12 à 20% en 2025 de l'assurance habitation, soit une augmentation annuelle de 16 euros par foyer, de quoi dégager 1,2 milliard d'euros. Deuxième proposition, pénaliser les propriétaires de résidences secondaires et locatives. C'est-à-dire que s'ils ne font pas le nécessaire pour protéger leurs biens, les assureurs pourront augmenter les primes et la franchise de l'assurance habitation un peu comme ils le veulent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Troisième idée, obliger les propriétaires à engager des travaux de prévention pour éviter les dommages à répétition. Les habitants des zones classées rouges, c'est-à-dire à risque élevé de catastrophes naturelles, seraient tenus de faire des travaux dans les 3 ans après un premier sinistre. À défaut, il subirait un triplement de la franchise pour les sinistres suivants de même origine.
Voilà pour ce rapport sur l'assurabilité. Merci beaucoup Alexandra. Et puis on voulait vous dire un mot de cette première mondiale dévoilée par le CEA, Commissariat à l'énergie atomique. Le CEA vient de publier une série d'images de cerveaux obtenues grâce à un scanner IRM doté d'un aimant surpuissant. C'est le genre d'innovation clairement qui laisse espérer des sauts médicaux importantissime dans les prochaines années. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
Observer le cerveau humain avec une précision et une résolution inédites. C'est ce que promet ISE, un des scanners IRM les plus puissants du monde, capable de délivrer un champ magnétique d'une intensité de 11,7 Tesla contre 3 pour un scanner IRM classique. Cette installation va permettre aux scientifiques de redécouvrir le cerveau humain, d'observer les neurones en action, texture, contraste, veines. Sa résolution inédite devrait contribuer à faire des sauts technologiques dans la maladie d'Alzheimer, celle de Parkinson, la sclérose en plaques ou encore dans la psychiatrie. Au cœur de l'installation, un gigantesque aimant de 135 tonnes et de 5 mètres de diamètre, fabriqué par Alstom, un aimant supraconducteur refroidi à moins 271 degrés Celsius. Il a même fallu construire le bâtiment autour. Plus de 20 ans de travail pour les équipes du CEA et 70 millions d'euros ont été nécessaires pour réaliser cette prouesse scientifique. Un scanner qui, pour l'instant, est un outil expérimental. On ne verra pas ISO tout de suite dans nos hôpitaux. De nombreuses années seront en effet nécessaires avant de parvenir à miniaturiser une telle installation.
Jean-Baptiste Huette avec nous sur BFM Business, 19h09, on retourne sur les marchés.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage. La gestion intelligente qui réinvente la finance.
Les marchés, Bourse de Paris qui a redémarré ce matin à quelques jours de pause pour cause de fête de Pâques évidemment. On n'a pas redémarré pour rien, on perd quasiment 1% ce soir, 8130 points pour l'indice parisien. Bonsoir Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business. Bah, c'était pas tellement plus rose bonbon du côté de Wall Street en ce moment.
Non, loin de là, puisque vous avez trois indices américains qui perdent 1%. Alors là aussi, à Wall Street, on s'achemine vers la pire séance de l'année. Mais bon, il faut quand même pas oublier d'où l'on vient, avec des records qui ont été touché ces dernières semaines. Alors, un cocktail de mauvaises nouvelles. Hein. Déjà, le pétrole qui, sur des plus hauts de 5 mois, à la porte des 90 dollars, avec de nouvelles tensions au Moyen-Orient et puis aussi dans le conflit entre la Russie et puis l'Ukraine. Donc, forcément, ça ravive eh bien, le cours du pétrole. L'once d'or qui, sur des plus hauts historiques, à la porte des 2300 dollars. Ajoutez également à cela quelques inquiétudes avec un nouveau bras de fer, peut-être, qui va se jouer entre la Chine et les États-Unis, puisque tout à l'heure, vous avez Xi Jinping qui a dit à Biden que Pékin ne resterait pas les bras croisés par rapport aux restrictions de technologie. Vous savez, dans la course à l'intelligence artificielle, Biden ne veut pas que les dernières plus de Nvidia et d'AMD aillent à la Chine. Bon, bah là, à voir comment ça va se concrétiser dans les prochaines semaines, mais à très court terme, ça pèse sur AMD qui perd quasiment 4% aujourd'hui.
téléphone aux oreilles de Joe Biden et Xi Jinping. Hein,
voilà, donc une conversation téléphonique qui s'est tenue aujourd'hui sur ce sujet, mais aussi sur bien d'autres, à voir si un rendez-vous va avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc, vous voyez, pas mal de mauvaises nouvelles qui amènent à prendre des bénéfices. Trois indices américains qui perdent 1%. Après, ne l'oublions pas, d'où on vient, hein, bien sûr, avec des niveaux stratosphériques qui ont été touchés ces derniers jours. Et puis, quand même, un gain de plus de 12% au premier trimestre pour l'indice Nasdaq.
Voilà pour les marchés du côté de New York. Merci beaucoup, Étienne. Étienne Brock avec nous sur BFM Business. 19h11, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov, puis nos experts. Alors, on va reparler un petit peu de ces milliards que le gouvernement cherche à faire rentrer. On entendait le sénateur Jean-François Husson qui nous dit aujourd'hui toute la vérité n'a pas été faite sur l'ampleur des déficits français. Et puis, ces ballons d'essai qui continuent de circuler. Gabriel Attal qui veut taxer les rentes. Et puis, la Gercarco, le gouvernement qui ressort le dossier. Bref, beaucoup de choses pour aller chercher quelques milliards. On parle de ça et bien d'autres choses jusqu'à 20h, bien sûr. À tout de suite.
Présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, bientôt 19h15, ils sont là déjà un peu agités, nos experts. Audrey Tcherkov est avec nous. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Bien sûr. C'est vrai qu'ils sont agités. Hein,
mais comme souvent.
Stéphanie Villers reste avec nous. Rebonsoir Stéphanie, économiste, conseillère économique chez PwC France. Sébastien Lay, entrepreneur, économiste à la Fondation Concorde. Rebonsoir. Et puis Franck Boisis qui nous a rejoint. Bonsoir Franck.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey.
Journaliste économique au quotidien Libération. Alors on est toujours dans cette chasse aux œufs. Non, c'est fini. C'est la chasse aux milliards désormais qui nous intéresse. Avec encore des pistes qui sont lancées, on en parlera dans un instant. On était tout à l'heure avec le sénateur Jean-François Husson, l'homme qui a fait le buzz il y a 10 jours en débarquant à l'improviste du côté de Bercy pour regarder la réalité des comptes, qui nous disait tout à l'heure, attendez, la réalité des comptes n'est pas encore connue, on nous cache encore des choses à Bercy. Écoutez Jean-François Husson, tiens.
Effectivement, c'est des notes que le gouvernement a gardées par-devers lui, c'est son droit, il retient l'information, il a le droit, mais il a surtout le droit d'agir. Et quand je dis le droit, il a un devoir d'agir. Et il a fait ni l'un ni l'autre. Là, aujourd'hui, c'est la face nord et on est à plus de 3000 mètres, puisqu'on a plus de 3000 milliards de dettes. Mmh. Donc, je pense que l'heure est grave et il est temps que le gouvernement pose les choses. De toute façon, il va devoir le faire, puisque nous avons une échéance là, ce mois-ci, par rapport au programme de stabilité européen. C'est bien l'Europe, mais il faut aussi, je dirais, être au rendez-vous et notamment des comptes bien tenus.
Bon, c'est certain que la trajectoire économique prévue pour 2024, de toute façon, va être révisée. Mais ce qui est quand même grave, c'est que quand le gouvernement a présenté son budget pour 2024, évidemment, les partis d'opposition, mais aussi tous les organismes économiques se sont élevés d'une seule et même voix pour dire que c'était un budget qui n'était pas tenable et c'était un budget insincère. Et ce que Jean-François Husson explique, c'est que l'administration a donné plusieurs alertes au gouvernement durant 2023 qui n'ont pas été prises en compte et que le gouvernement n'a jamais cherché à redresser la situation. Franck Boisise.
Il y avait deux problèmes sur ce sujet-là. D'abord, la présente croissance était surévaluée.
Oui.
Et ensuite, à Libération, on a discuté avec des gens du terrain fiscal qui nous ont dit, très tôt, on a fait remonter à Bercy le fait que les rentrées fiscales, notamment sur la TVA et sur l'impôt sur les sociétés, ne rentraient pas à hauteur de ce qui était prévu. Donc, ceci était effectivement annonçable, envisageable, prévisible, choisissons les adjectifs que nous voulons.
Ils font mine d'avoir découvert ça en 2024, début 2024 apparemment. Hein, c'est ce qui nous
comme vous dites.
L'administration a remonté le 1er décembre 2023 le sujet sur la TVA, en effet.
Soit qu'on est peut-être à deux doigts de la commission d'enquête sur ce sujet-là pour savoir si effectivement il y a eu insincérité ou pas. Après, les projets de loi de finances rectificatifs servent justement à corriger les choses en la matière. Mais ce que vous disiez qui est finalement important, c'est la trajectoire. C'est-à-dire qu'on ne tiendra pas en 2024 ce qui était prévu initialement. Se pose donc la question récurrente des recettes et des dépenses. Et là, on sent qu'il y a un vrai débat et une majorité qui ne parle pas d'une seule et même voix.
Oui, parce que là, on le rappelle, Sébastien, le déficit prévu pour 2024, c'est 4,4%. On ne le tiendra jamais.
Ah non, si la prévision de croissance qui a été annoncée, qui est de 1%, n'est pas tenue, on n'y arrivera pas. Parce que les deux sujets sont liés. Hein. Le déficit de recettes fiscales, il faut expliquer aux Français, c'est juste la croissance. Notamment sur l'IS, ils le savaient à peu près dès le début. Et je crois qu'on avait in fine perdu 4 milliards, rien qu'avec l'IS. Donc, on le sait. Moi encore une fois, on ne va pas faire une approche comme ça, managériale. Mais quand même, on est plutôt tous du monde de l'entreprise sur cette chaîne. normalement, quand on a plusieurs prévisions et qu'on sait que c'est difficile, on fait le worst case, le best case, et on fait la moyenne, quoi.
Voir un profit warning.
Il faut quand même forcer nos gouvernants, c'est peut-être le rôle d'ailleurs du Parlement, à prendre au moins la moyenne et ne pas les laisser. En fait, quand ils sont allés faire ce qu'ils appellent une sorte de perquisition à Bercy, c'est qu'il est tombé sur toutes les études. Et effectivement, il y avait certaines études qui étaient encore plus alarmistes, encore plus catastrophistes. Donc normalement, le rôle d'un gouvernement, c'est de lire ces études, de s'en nourrir, les services à Bercy, et puis après de s'accorder sur une moyenne, mais pas de partir sur le scénario le plus optimiste. Enfin, dans le monde, encore une fois, dans le monde du privé, de l'entreprise, personne ne raisonne comme ça, sinon on irait tout droit à la faillite. Donc si on fait ça depuis 20 ans, c'est sûr qu'on s'en sort pas en matière
de finances. Quand vous entendez, oui Franck, allez-y. Oui.
Si vous me permettez, j'ai deux sens de divergence quand même. Quand vous dites dans le monde de l'entreprise, on ne fait pas ça.
J'imagine.
Je me rappelle d'une récente grande entreprise que j'ai un tout petit peu couvert qui s'appelle Casino.
Ah oui.
Entre les réunions de staff.
Mais c'est planté.
Il y avait un petit peu plus de
À la différence, Franck, c'est qu'on voit bien, voilà, que en fait, les pyramides, les empilements de dettes et les montages financiers douteux, ça ne tient jamais sur le long terme.
Non, mais quand vous entendez aujourd'hui l'État, Matignon nous répétait encore ce midi que vous verrez la semaine prochaine, on vous présentera un nouveau calendrier réactualisé pour aller amener les déficits progressivement sous la fameuse barre des 3% en 2027. Est-ce que vous y croyez, vous, Stéphanie? Vous dites, finalement,
en fait,
on va gentiment, comme à chaque fois, repousser les échéances.
J'essaye d'envisager la faisabilité et comment ça peut fonctionner. Si on sait très bien que si on veut avoir une mesure rapide avec une efficacité rapide, ça, il faut augmenter les impôts, en fait. C'est là-dessus.
Ah bah justement, on va en parler. C'est au menu.
Quand même, voilà. Enfin.
Attention, parce que sur qui
voilà. Et alors que les dépenses, en fait, toutes ces mesures-là, alors c'est ce qu'on appelle les réformes structurelles, donc elles sont rarement lancées, très peu. Il y a eu la réforme des retraites, mais il n'y en a pas vraiment d'autres. Et ça, on sait très bien.
Et la réforme des retraites a été largement déceptive sur la partie financière, finalement.
En fait, ça se verra. En fait, ces réformes-là, c'est sur le long terme. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à résoudre une problématique de déficit en faisant une réforme sur de la dépense sociale. Hein. Mmh. C'est année après année, si on rogne, on gagne.
Alors justement, puisque vous parlez d'hausse d'impôts, vous avez vu ce qu'a dit ce matin le président délégué du Conseil d'analyse économique, Camille Landais. Le CAE s'est rattaché à Matignon.
C'est ça qui est important, c'est que c'est rattaché à Matignon.
Et il dit clairement, tout le monde nous répète au sein du gouvernement qu'il n'est pas question d'augmenter les impôts. Il dit, pourquoi pas? Regardez l'ampleur des déficits, regardez l'ampleur des situations. Il dit, c'est absurde de ne pas envisager cette solution.
Il est dans son rôle en tant que macroéconomiste. Lui, c'est pas un comptable. Il dirige le CAE, il a raison de rappeler les différents leviers, de donner les différentes solutions. Donc il est parfaitement dans son rôle. Moi, c'est Camille Landais. Hein. Ce qu'il a dit ne me choque absolument pas. Il a raison de rappeler que dans certains cas, on peut jouer sur le levier des recettes. Prenons un exemple. Alors, je ne sais pas s'il va se produire, mais aux États-Unis, par exemple, si Biden est réélu, la trajectoire, c'est de dire il y avait des tax cuts qui avaient été décidés par Trump. Elles doivent expirer en 2025. Et donc, il laisse les tax cuts expirer. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation d'impôts. Alors, simplement, il a mis la barre à un certain niveau de revenu, qui est élevé d'ailleurs, qui est $400,000. Donc en gros, tous ceux qui gagnent plus de $400,000 par an auront une augmentation de la ponction fiscale, les autres non. Et il sait que comme ça, sur 5 ou 6 ans, il se rapproche, je crois, d'un déficit du PIB, d'une dette rapportée au PIB qui est aux alentours de 90% au lieu des
100% actuels. Donc
dans certains pays. Donc après, la France, c'est un cas particulier, on va en discuter. On a une pression fiscale qui est déjà à 46% du PIB. Donc l'acceptabilité politique, elle est très très faible. On va voir quelles sont les solutions. Hein. On a parlé de taxes accélérantes. Mais en tout cas, Camille Landais, il est dans son rôle en tant qu'économiste.
Oui, il est dans son rôle.
De rappeler les différentes options.
Mais vous venez de le dire à demi-mot. On est déjà sur la première place du podium concernant les prélèvements obligatoires sur le capital et sur le travail. Donc il faut aller chercher d'autres leviers. Est-ce que c'est les rentes? Est-ce que c'est le foncier? Est-ce que c'est les super profits? Stéphanie.
Oui, faut surtout rappeler que lorsqu'on a des recettes qui arrivent à un niveau le plus élevé possible compte tenu de notre pression fiscale qui est la plus élevée des pays de l'OCDE.
Oui.
Donc en fait, on se doute bien que...
On est repassé devant le Danemark. Hein.
Marge de manœuvre dans ce domaine-là, elles sont extrêmement faibles. Alors on peut toujours augmenter les impôts parce qu'on entend sur les plus riches, mais si c'est pour abaisser les impôts sur les plus plus faibles, bah, c'est en fait c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques. Enfin, ça va pas donner de mesures attendues. Ensuite, il reste quand même d'autres mesures qui est toujours ce qu'attendent en fait les marchés financiers et Bruxelles, c'est être capable de se lancer dans ces réformes, les réformes de l'État, pour pouvoir être arriver à taper dans les dépenses.
Pour le moment, il n'y a rien qui se dessine là-dessus.
Un mot, pardon Franck, sur les impôts, pour reprendre ce que dit Camille Landais, alors que ces propositions d'augmentation d'impôts, ça part un peu dans tous les sens. D'un côté, il dit « je ne suis pas contre une contribution sur la rente des énergéticiens », il y en a déjà une autre. De l'autre, il nous dit quand même, de l'autre, il dit qu'il faut quand même faire contribuer les retraités actuels. Donc ça tire un peu dans tous les sens, cette histoire.
Non, ça tire dans tous les sens, Guillaume, ou alors il va finalement chercher ce qui n'a pas été vu, revu et rebattu jusqu'à présent, là où il voit des sources de gains fiscal potentiel. Je pense qu'il y a aussi une autre direction dans laquelle Camille Landais n'est pas, c'est quand même un certain nombre de niches fiscales, comme vous l'évoquiez tout à l'heure pour ce qui était les tax cuts aux États-Unis sur lesquels il faut peut-être revenir. On a le débat sur les impôts de production où effectivement 4 milliards plus 4 milliards, ça fait 8 milliards sur 2 ans. Était-il nécessaire de rester dans cette trajectoire-là, compte tenu...
Alors, attendez, parce que là, si le gouvernement revenait sur la CVAE, alors là, ça serait un bras de fer total avec les organisations patronales.
Oui, mais d'un autre côté, si le gouvernement choisit d'augmenter...
On ne peut pas dire qu'il faut booster la croissance à tout prix pour réduire le déficit et revenir sur ces sujets-là, mais ce n'est pas possible.
Si la situation l'exige, c'est ce qu'on appelle l'économie de guerre parfois, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas dire on a un déficit budgétaire qui grimpe en flèche et ne pas vouloir d'action structurelle, comme disait madame. Donc, les pistes que pose Camille Landais, alors certaines, à mon avis, ne sont pas génératrices de beaucoup de gains, c'est-à-dire ce qu'il dit sur l'apprentissage, ce qu'il dit sur le CIE, le crédit impôt recherche.
Oui, crédit impôt recherche aussi.
Voilà, il avance un certain nombre de pistes, mais on est quand même sur l'épaisseur du trait, me semble-t-il.
Oui.
Ce que vous disiez sur la rente, à un moment donné, le fait que la flat tax limite à 30% l'imposition sur les revenus financiers va à un moment donné fatalement revenir dans le débat, puisque le décalage...
Oui, mais là, il donne un os à ronger à l'aile gauche de sa majorité. Enfin, vous comprenez la manœuvre aujourd'hui.
Mais est-ce que ça n'est qu'un os à ronger, pardon, ou un véritable débat qui est de se dire que depuis longtemps, dans ce pays, le travail est beaucoup plus taxé que le capital, et qu'à un moment donné, l'économie de la rente devra peut-être plus contribuer au budget de la nation que ce qu'elle ne contribue aujourd'hui.
Sébastien Lé.
Il y a une mission qui a été donnée à M. Cazeneuve aussi, hein, sur les rentes. On peut essayer de se poser la question, qu'est-ce qu'il entend par rente ? Moi, je pense que c'est vraiment le sujet des niches fiscales qui va revenir sur différents domaines, dans le logement, dans l'énergie. C'est là où ils vont tenter de trouver des économies. Comme ce qui a commencé à être fait, par exemple, avec ma prime Rénov. Hein. Ils ont quand même trouvé les 600 millions d'euros assez rapidement. Et donc, c'est sur cet élément-là qu'on va jouer.
Mais de la même manière que sur les super profits, Gabriel Attal a dit qu'il n'avait pas de dogme et qu'il était ouvert à toute discussion.
Oui, alors il a dit qu'il était ouvert à toute discussion, mais on ne voit pas quelle direction prend la discussion. On pourra en revenir en tout cas sur les premières annonces qui ont été faites pour MaPrimeRénov. Je trouve que ça envoie un message quand même assez désaggréable sur la volonté.
Sur la transition écologique.
Mais ça, c'est comme le leasing social qu'on abandonne
dans
la campagne.
Mais ça me donne comme le leasing social
sur
les voitures.
Oui, non, mais de toute façon, sur la transition écologique, on était en train de couper tous les investissements d'avenir.
Et sachant que c'est quand même un impératif pour l'État, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs ? Alors, quand on dit taxe sur les super profits, c'est un mot un petit peu valise. À un moment donné, regardons secteur par secteur. Première source d'interrogation, on a une taxe sur les énergéticiens qui devait rapporter 12 milliards. Elle ne rapporte que 300 millions au bout du compte. Donc là, il y a quand même une question à se poser sur le rapport de ce prélèvement au regard des profits qui ont été réalisés.
Oui, et en même temps, c'est un sujet structurel, parce que par rapport à la crise énergétique, Stéphanie.
Oui, ce qui était nouveau sur le budget 2024, c'était justement la ligne directrice qui avait été donnée par le gouvernement, où en fait on finance la transition écologique, donc on va taxer tout ce qui ressemble à des niches brunes.
Oui.
Et donc ça, moi je trouve que c'était une avancée par rapport à ce qui avait été fait auparavant, c'est que le contribuable savait où le guide et où on allait bon an mal an avec cette politique fiscale. Alors après, 3 mois après, revenir là-dessus et en essayant de raboter à droite à gauche, ça enlève toute crédibilité.
Oui, mais en même temps, revenir là-dessus au moment où le CAC 40 atteint des records historiques.
Alors, et pour juste me permettre de vous répondre sur les niches brunes, quand à un moment il y a une crise agricole qui démarre dans ce pays et que le GNR, le gazole non routier, devient un sujet de focalisation, est-ce que le gouvernement a d'autres choix que de faire machine arrière sur cet avantage fiscal particulier?
Oui, mais ce n'était pas la mesure phare du budget 2024.
Non,
je parle la ligne de directrice qui était importante.
Alors en tout cas, enfin une autre piste qui est à l'étude de la part du gouvernement pour justement récupérer un peu d'argent, c'est de mettre la main sur une partie du trésor de guerre de l'Agirc-Arrco. Catherine Vautrin, apparemment, d'après les informations de presse, aurait relancé l'idée en coulisses, Guillaume.
Ouais, parce qu'on est toujours dans l'idée que la réforme des retraites a permis au régime de retraite complémentaire de faire des excédents en plus, et donc l'État pourrait piocher dedans. Écoutez ce que disait ce matin le patron du régime Agirc-Arrco qui était sur BFM Business. Il n'y a pas de magot, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a rien. Tout ça, écoutez.
D'abord, ces cotisations, elles appartiennent aux salariés du privé. Ce régime de retraite, il appartient aux salariés du privé. Et la caractéristique de l'Agirc-Arrco, c'est que quand on travaille plus longtemps, on a une retraite plus élevée. Nous sommes, comme on dit, un régime contributif. Donc, ces cotisations, cet excédent relatif, ce rendement relatif, alors c'est pas un excédent, c'est un rendement relatif, il est utile pour garantir le paiement des retraites de tous les salariés du privé qui travailleront un peu plus longtemps demain, mais qui aussi continueront à vivre un petit peu plus longtemps. Donc, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de magot, ce sont des recettes, ce sont des réserves qui sont utiles aujourd'hui et demain.
Voilà, rappel, estimation du gouvernement, tout ça créerait des excédents supplémentaires pour l'Agirc-Arrco, 1,6 milliard d'euros en 2026, 3 milliards en 2030. Merci, la réforme des retraites.
Voilà, c'est ça, parce qu'en effet, ouais. La réforme des retraites a eu un effet positif mécanique avec le passage à 64 ans sur les comptes de l'Agirc-Arrco. Donc la discussion, elle va se faire sur le milliard et demi.
Sur les économies à venir.
Voilà, qui ont été apportées et qui sont un bonus. Franck.
C'est assez hallucinant comme débat parce qu'on a l'impression que le gouvernement veut le beurre, l'argent du beurre. C'est-à-dire la réforme des retraites, les économies.
Ils disent c'est grâce à nous. Ils disent c'est grâce à nous.
Voilà. Générées par l'assurance retraite. Et en plus, aller sur les retraites complémentaires en disant mais finalement, on veut aussi récupérer le gain. Moi, je comprends la colère qui me semble assez légitime, enfin, en tout cas, l'émoi qui me semble assez légitime du directeur général de la GIRC. On a un peu la même démarche, c'est assez étonnant, il y a un parallélisme des formes, parce que dans le débat sur l'assurance chômage, quand vous te regardez, il y a un excédent sur l'assurance chômage aussi, qui est de l'ordre de 2 milliards et demi, après première ponction de l'État, puisque l'État s'est servi d'un milliard et demi sur l'assurance chômage. Et finalement, dans cette chasse aux milliards que vous décriviez tout à l'heure, Guillaume, on a l'impression que politiquement, le gouvernement est quand même en train de prendre des risques en allant chercher des excédents qui ont été constitué par des caisses autonomes, en disant finalement, d'une manière très régalienne, je viens ponctionner ces sommes qui appartiennent à d'autres.
Alors, prendre des risques, pourquoi? En mettant à mal le paritarisme et en engageant le bras de fer avec les partenaires sociaux.
En mettant à mal le paritarisme, après les déclarations de Bruno Le Maire, je vous le rappelle, il y a quelques semaines, disant finalement, il serait bon que sur l'assurance chômage, l'État reprenne la main, qui n'est pas uniquement le final cut, comme c'est le cas aujourd'hui, mais on sent qu'il y a une volonté quand même de mettre à mal le paritarisme, c'est-à-dire ce qui date de 1940.
Surtout pour mettre la main. Non, l'idée, c'est mettre la main sur les réserves, quand même, qui sont estimées à 78-79 milliards d'euros.
Stéphanie Macron, en 2017, réforme des retraites, il voulait faire effectivement qu'un seul système pour récupérer ces réserves qui étaient à la Agirc-Arrco. Donc, il est toujours sur. Il focalise sur cette manne en se disant que c'est une option très facile pour essayer d'éponger quelques.
Oui, et il ne comprend pas, en fait, le modèle français traditionnel. Il y a une séparation entre l'impôt et puis de l'autre côté des caisses autonomes et des systèmes de cotisation. D'ailleurs, à mon avis, ça va au-delà. C'est pas uniquement pour récupérer ses réserves. Je pense que philosophiquement, la majorité est opposée au paritarisme.
C'est bien le problème.
Ils sont un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Pour récupérer quelques milliards, finalement, ils en arrivent à vouloir détruire, démolir le paritarisme. Alors, l'idée, c'est un peu d'essayer de se projeter. Qu'est-ce qui peut se passer? Moi, je pense que chaque année, on va rentrer dans ce débat-là. Et à mon avis, il faut voir que la majorité, après cette réforme qui a été difficile, impopulaire, ils se sentent comme des grands brûlés. Il y a des problèmes de finances publiques. Et donc, ils ont la tentation de dire, de toute façon, puisqu'elle a été dure, cette réforme, puisqu'on a souffert, qu'on y a laissé des plumes politiquement, allons-y. Allons-y et essayons de taper dedans. Donc je pense qu'ils iront au clash. Non,
on sent qu'on est au bout de l'histoire, on est au bout du truc là.
Ouais. Clairement, ça va pas tenir comme ça chaque année.
Non, mais le paritarisme, soit il disparaît purement.
Mais finalement, le paritarisme est menacé parce que la manière d'aller au clash, comme vous le dites, c'est par exemple sur l'assurance chômage, de faire des lettres de cadrage à espace de plus en plus restreint et finalement de mettre les organisations syndicales, qu'elles soient patronales ou de salariés, dans une sorte de corner.
C'est aussi un message compliqué envoyé au grand public parce que pour ceux qui cotisent sur le secteur privé, enfin, ils vont aussi avoir l'impression d'être un peu dépossédés, parce que ces excédents-là, ils sont censés financer des investissements d'avenir, ils sont censés revaloriser les pensions des plus modestes.
Et surtout, en fait, en majorité, ils financent la dette de l'État. Hein,
voilà,
en plus. En plus, oui. Directement sur les EAT.
Ouais. Allez, voilà pour le magot de la GRCARCO. Enfin, il n'y a pas de magot, disait ce matin son directeur général hein, sur BFM Business. 19h32.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, Stéphanie Villers, Franck Boisise et Sébastien Lay sont nos experts ce soir. Alors on va aussi parler solutions hein, pour trouver des économies si on s'attaquait une bonne fois pour toutes au chantier de la complexité administrative. Sébastien Lay, c'est un rapport que vous venez de publier qui s'intitule « La simplification administrative, sortir de l'enfer bureaucratique français » avec ce chiffre quand même édifiant. L'inflation normative, c'est plus 65% en 20 ans.
Ouais, c'est énorme, il y a certains codes, par exemple le code de la santé publique, doublé de volume tous les 15 ans, 400 articles à peu près en plus chaque année. Les CERFA, vous savez combien il y a de CERFA en France? On en a parlé récemment.
Ouais, petite idée. Allez-y.
1800 stricto sensu, mais parfois vous avez l'annexe, etc. Donc, vous faites tous les documents, il y en a à peu près 4000.
Vous annoncez la fin des CERFA pour je ne sais pas quand.
2030.
Oui, oui.
Ouais, on verra s'ils arrivent à le faire, tant mieux. Il y a des pistes pour y arriver dans le rapport sur la dématérialisation, l'intelligence artificielle, voilà, la simplification de certaines
Et vous procédures. Dites le poids de la complexité administrative, c'est 3-4 points de PIB. Vous dites ça fait 70
environ
milliards.
Environ 70 milliards d'euros ouais, par an.
C'est Après, le coût pour la collectivité. C'est une notion toute relative, la complexité.
Bien sûr, mais il y a quand même des études très sérieuses sur le sujet. Alors, ça inclut bien nous, les citoyens, les entreprises, bien sûr, mais aussi l'administration elle-même, qui perd en efficacité dans ses propres procédures. Donc, déjà, on parlait de la dépense publique, il y a 10-12 milliards d'euros, rien que de réorganisation administrative à aller chercher chaque année.
Mais c'est quand même une des grandes promesses de Gabriel Attal, qui dit qu'il va prendre en compte les besoins des entreprises, les relations avec l'administration, la dématérialisation, justement, la simplification fiscale, le test PME, exactement, pour que systématiquement les mesures concernant les PME soient testées avant d'être votées. Vous y croyez, Franck Boisise?
Je crois éventuellement dans la démarche politique consistant à, je m'interroge sur le gain in fine. Sachant que
le gain économique, il est à peu près évident. C'est ça ce qui vous interpelle?
Oui,
c'est ça
ce qu'on va vraiment gagner. Au bout de l'histoire, quelle est l'économie budgétaire qui est réalisée, quoi?
Bah alors, regardons nos voisins, puisque c'est ce que je fais dans ce rapport, sans aller jusqu'au Canada, les États-Unis ou l'Argentine, mais juste Pays-Bas, Allemagne, c'est des pays qui ont réussi à mettre en place des politiques pérennes de simplification. Ils regardent ça chaque année et ils ont réussi à diminuer le stock normatif d'environ 10%, à avoir de réelles économies. Donc, il y a des résultats tangibles qui ont été obtenus dans d'autres pays. Ce n'est pas le moyen de trouver 70 milliards d'euros par an, hein, parce qu'on ne pourrait pas tout supprimer, comme l'a dit le sénateur Husson.
Non, mais 10%, mais il y a 10% voilà. Si vous...
Oui, et puis de la tranquillité aussi pour les citoyens, parce que l'origine de ce rapport, c'est aussi, vous l'avez autour de vous, des gens qui n'en peuvent plus. Oui. Le nombre de fois où l'administration leur demande les mêmes informations.
Alors ça, c'est le fameux « dites-nous qu'une fois ».
Exactement.
Qui est aussi promis par le gouvernement actuel.
Là aussi, ça n'a jamais été vraiment fait. Donc, j'ai une proposition un peu plus rigoureuse sur le sujet. Et en fait, il y a un coût. On parlait de 3-4% du PIB, mais je pense qu'il y a un coût d'opportunité énorme en France. Il y a encore un certain nombre de gens qui ne vont pas entreprendre, qui ne vont pas ouvrir de commerce, qui ne se lancent pas. Même dans certaines démarches, parfois quand ils ont droit à des aides sociales, la complexité
administrative. Et puis aussi, Stéphanie, pour les professions et les entreprises existantes, c'est aussi un sujet de passer à l'échelle. Parce qu'ils sont complètement asphyxiés. Je parle des petites entreprises.
Oui, TPE, ouais.
Oui, c'est un véritable frein. Alors après, est-ce que l'intelligence artificielle, du côté des administrations et du côté des entreprises, va pouvoir faciliter en fait l'échange d'informations, hein, parce qu'en fait, ce sont deux intelligences qui vont se parler. Donc après, il y aura moins besoin d'investir dans ces tâches administratives. Après, du côté de l'administration, est-ce que c'est pas des emplois en moins, parce que ces gens-là on a bien entendu parler du poids de l'administration en France, notamment dans le secteur de la santé, si on compare par rapport à l'Allemagne. Vous savez, il y en est...
Les coûts de fonctionnement.
On précise les coûts de fonctionnement de l'hôpital, c'est 30% dirigés vers la partie administrative.
Alors qu'on est plutôt à 20%.
Alors que c'est 10 points de moins en Allemagne.
Donc c'est aussi peut-être une promesse de rehausser la qualité du service public en redirigeant les dépenses vers la partie opérationnelle.
Oui, mais c'est ces salariés, ces fonctionnaires qui sont affiliés particuliers qui sont dédiés aux tâches administratives, en fait, il va falloir leur trouver
d'autres. Ah, ils feront autre chose.
Et ouais. Là aussi, c'est peut-être aussi ce qui freine, en fait. Hein.
L'intelligence artificielle, je suis plutôt optimiste, parce que pour l'instant, ce qui a marché dans la simplification, c'est la dématérialisation. Et finalement, l'intelligence artificielle, c'est le niveau 2 de la dématérialisation. Ce qui est plus dur, c'est d'arriver à faire, par exemple, ce qui est une des grandes recommandations de mon rapport, qui est, on parlait tout à l'heure du droit bavard, oui. Qui est vraiment d'arriver à s'asseoir, comme on l'a fait avec la commission Badinter, et de dire, voilà, le droit ne peut pas se mêler de tout, il faut définir quelques principes généraux, protéger les gens, et après faire confiance aux acteurs de terrain. Ça, c'est une révolution plus culturelle, plus politique, qui est difficile, parce qu'elle demande presque aux politiques, finalement, philosophiquement, de se dessaisir d'une partie de son pouvoir.
Il y a une douzaine de mesures dans votre rapport. Moi, je reviens, on en parlait déjà tout à l'heure, c'est le principe de précaution. Vous dites, il faut revisiter le principe de précaution. Vous dites véritablement frein à l'activité, stricto sensu. Voilà.
Logement, innovation, start-up,
sujet à chaque fois, on nous oppose. Sujet hyper clivant, Sébastien.
Bien sûr, c'est un rapport.
Qu'est-ce qu'on fait avec le principe de précaution?
Le but de rapport. Moi, je pense que c'est de le sortir du bloc de constitutionnalité. Aujourd'hui, ce qui fait qu'il arrivait à essaimer de partout dans le droit, c'est que, rappelez-vous, à l'époque, c'était Michel Barnier qui avait obtenu que ça soit inscrit dans le bloc de constitutionnalité. Si on met tout dans le bloc de constitutionnalité et qu'on donne à peu près à toutes les notions, tous les sujets, une valeur constitutionnelle, on s'en sort plus sur le terrain.
Oui, mais alors, Franck Boisiz, je ne vous sens pas convaincu.
Bien sûr.
Il me manquait un morceau dans ce que vous dites. Alors, je ne sais pas si ça fait partie de votre rapport ou pas, mais ce qui me semble être une cause de déperdition d'énergie et de deniers publics, c'est ce qu'on appelle trivialement le millefeuille administratif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais quand je parle de millefeuille administratif, je parle de l'empilement
des strates et des doubles.
Entre État, les différentes couches de collectivités locales.
Alors, je ne me suis pas posé la question de l'organisation territoriale, parce que quand on fait un rapport comme ça, la simplification administrative, on pourrait parler de tout. Je pourrais parler de l'Europe, etc. Il a fallu que je me cantonne stricto sensu au processus administratif.
Ça sera la tome 2, Sébastien.
Mais il y a quand même, vous avez raison, même dans l'administration, différentes couches. Le sujet des agences, parfois, qui font doublon à l'administration administrante. Donc oui, la question du millefeuille administratif et, in fine, territorial.
Non, mais il y a le millefeuille administratif et le millefeuille de normes qui s'empilent les unes sur les autres, qui sont parfois contradictoires. Vous avez vu, sur le sujet des « et », concernant les agriculteurs.
Les normes sont souvent des transpositions, Audrey. C'est-à-dire qu'à un moment donné.
Alors, ça aussi, on en parle. Il y a une surtransposition des directives européennes.
L'enfer est pas avec bonnes intentions.
Et il faut lutter contre ce phénomène-là aussi.
Et en même temps, je trouve qu'il y a quand même. N'oublions pas ce nombre d'acquis qui ont été réalisés. Je pense que, par exemple, une grande réforme comme le prélèvement à la source en matière
fiscale. Ça a marché. Il s'agit d'aller chercher de l'impôt.
Et c'est source de simplification.
Sur la collecte de l'impôt, quoi.
Et c'est source de simplification.
Le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne parce que justement il y avait trop de réglementations, trop de directives, trop de normes, et bien s'est retrouvé en fait encore plus pénalisé parce que en sortant du marché unique, les Anglais sont obligés de remettre en fait des droits de douane ils sont repartis en fait dans une administration qui était justement la raison pour laquelle ils sont partis. Donc moi ça me fait rire quand même c'est l'arroseur arrosé pour le coup.
Dans le principe de précaution et l'inflation de normes, on est aussi, le propos est un peu plus sociétal, mais une société qui accepte de moins en moins le risque. Et on le voit quand il y a une crise sanitaire, quand il y a un pont qui se casse la figure, pourquoi ça s'est produit ? Puisque nous tolérons beaucoup moins le risque. Et on demande, à ce moment-là, une protection de la part de l'État régalien.
C'est important. Nous sommes aussi tous, collectivement, responsables de cette inflation normative. Il y a un ras-le-bol de l'inflation normative, mais les Français doivent prendre conscience que c'est eux aussi qui ont donné trop de pouvoir aux politiques, qui ont été trop demandeurs du politique.
Oui, je ne sais pas si on peut vraiment remettre la solution sur le citoyen.
Moi j'ai observé que les politiques en fait face à un problème la solution se trouve à travers de nouvelles normes
un problème une norme
ajoutant de la norme à la norme par rapport à un problème par exemple à un pont qui s'écroule, donc il faut faire de nouvelles normes avec des considérant que c'est les normes qui vont pouvoir les protéger.
Bien, voilà pour ce rapport sur la complexité administrative que vous publiez aujourd'hui avec les contribuables associés. C'est sorti ce week-end, Sébastien. Voilà. Simplification administrative, sortir de l'enfer bureaucratique français. On voulait dire un petit mot de cet autre rapport qui fait beaucoup causer depuis ce matin, rapport à charge, disons-le clairement, de deux députés sur l'enseignement privé sous contrat en France.
Et oui, rapport qui dénonce un financement public peu transparent, mais surtout mal contrôlé. On écoute tout de suite ce que disait ce matin le co-auteur du rapport, le député Renaissance Christopher Weisberg.
Le premier moyen d'enrayer la dynamique du privé, c'est que le public soit excellent, et notamment parfois en s'inspirant des techniques du privé, avec quelque chose qui est plus un encadrement qui est plus souple. Ça, j'y crois aussi. Mais il y a aussi des dérives. Par exemple, et c'est une des préconisations du rapport, il y a des établissements privés qui se délaissent des élèves qui considèrent un problème, alors que leur mission, c'est quand même d'aller jusqu'au bout de leur scolarité. Donc ça, on demande à ce que le recteur, par exemple, valide ou pas un élève qui serait obligé de quitter l'école privée.
Oui, alors sur ce sujet-là, il a raison, puisque 50% des élèves dans le privé sont issus de familles plutôt favorisées, alors que dans le public, c'est uniquement 33%. Mais quand même, de toute façon, les deux systèmes publics et privés souffrent de manque de moyens financiers et de manque d'investissement. Sébastien Lay.
Oui, mais je crois qu'il y a des vases communicants entre les deux. Le problème, c'est que c'est la détérioration de l'école publique qui fait que, malheureusement, les gens des familles les plus aisées basculent dans le privé et que reste du coup une moyenne dans le public en termes de catégorie socio-professionnelle qui est plus basse. Moi, je suis attaché à l'école publique, j'ai fait tout mon parcours dans l'école publique et il me semble qu'en une trentaine d'années, ouais, la situation s'est détériorée. J'ai l'impression que les gens aujourd'hui de ma génération qui ont des enfants me disent, pas moi-même, mais me disent, bah voilà, nos enfants, ils peuvent pas rester dans l'école publique, le niveau est tellement catastrophique.
Ah bah, il faut regarder de toute façon les classements PISA.
Alors voilà, alors que moi dans ma famille, philosophiquement, on serait jamais allé dans le privé, quoi.
Ce qui me gêne un peu avec ce rapport, c'est qu'ils le disent, vraiment le sujet, c'est que personne ne sait combien l'école privée reçoit de fonds publics, mais il n'y a pas de réponse à cette question, puis on fantasme de possibles dérapages, l'idée les contreparties sont pas forcément à la hauteur des subventions, mais de quelles subventions parle-t-on? De quels possibles dérapages parle-t-on?
Enfin, on a quand même deux chiffres qui sont des balises, Guillaume. C'est-à-dire 7500 établissements concernés et 10 milliards, une enveloppe près de 10 milliards d'euros.
Oui, mais même ce chiffre-là, c'est pas précis, Franck.
Il n'est pas d'une précision absolue. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que finalement, face à ces 10 milliards d'euros, qu'est-ce que l'État a en contrepartie? Je veux dire par là, est-ce que les établissements scolaires, je crois que ce n'est pas le cas, sont soumis à des sortes de contrats d'objectifs et de moyens, comme ça se fait avec l'audiovisuel, par exemple, public, hein, où on dit, bah, écoutez, vous êtes financé, puisque l'école privée est financée, puisque les enseignants, si on rentre dans le cœur du système, les enseignants qui officient au sein de l'école privée sont rémunérés par l'État. Et en fait, la structure privée a à sa charge les coûts immobiliers et les activités annexes. Donc, à partir du moment où c'est un service public, l'éducation, qu'elle est subventionnée dans le secteur privé, l'État est en droit de dire, bah, je mets un cahier des charges, et est-ce que vous respectez bien ce cahier des charges? Et là, on est au cœur du problème, le fameux contrat, puisqu'on est dans un enseignement sous contrat, le contrôle du respect et de l'exécution du contrat est insuffisant. Et c'est ça que dénoncent finalement les deux.
Enfin, est insuffisant, pardon, mais quand on regarde les taux de réussite entre le public et le privé, que ce soit sur le bac ou sur le brevet, le privé reste devant. Stéphanie.
Oui, c'est en fait le
et pour cause.
Oui, mais d'accord.
Ah oui, mais là le contrat n'est pas rompu, on peut pas reprocher à l'établissement privé. Enfin, je prends pas parti pour l'établissement privé, mais si l'établissement privé a des résultats au bac supérieur aux établissements publics, on peut pas reprocher au privé de ne pas.
Si on peut lui reprocher parce qu'il a ses résultats supérieurs en pratiquant une sorte de ségrégation sociale. Si ces résultats sont à ce niveau-là et supérieurs au secteur public, c'est bien parce que le profil sociologique des élèves qui sont dans le secteur privé.
Oui, mais pardon, mais ça,
c'est pas un problème financier.
Parce que ça, c'est la promesse républicaine que l'école publique ne tient plus, de justement accompagner les élèves en difficulté et un peu plus éloignés.
Le vrai sujet, c'est l'école publique, in fine. Oui. C'est pas tant
que dit
dans l'école privée.
Sujet,
après, il y a peut-être un autre sujet sur le bon usage des deniers publics, parce que là, ce mécanisme de subvention, on le retrouve dans de nombreux secteurs. Il y a peut-être un problème qui est celui de la difficulté à auditer finalement la dépense de l'État. Le contrôle, c'est ce que disait d'ailleurs le sénateur Husson, c'est ce que dit ce rapport. Mais il y a deux sujets, mais fondamentalement, ça doit nous interpeller aussi sur la qualité de l'école publique.
Oui, absolument. Et puis, puisque vous parliez tout à l'heure des rémunérations des enseignants, je vous signale que le gros sujet, il est là. Et d'ailleurs, autant dans le privé que dans le public. En Allemagne, les enseignants sont payés deux fois plus. En Espagne, 30% de plus. Enfin, on a quand même un vrai sujet de valorisation de la profession.
Oui, alors, vu le poids du budget d'éducation dans le budget global, enfin, c'est ce qui pèse le plus lourd chez nous, hein, en fait. Donc, les marges de manœuvre pour augmenter les professeurs avec la masse que ça représente en nombre, hein, où il faudrait diminuer le nombre d'enseignants. Non, c'est juste une question de marge budgétaire. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire.
Je suis d'accord avec vous, c'est 900 000 fonctionnaires donc, à rémunérer. Donc dès qu'on va augmenter un petit peu, c'est beaucoup d'argent.
Oui, ça fait effectivement vraiment un immense trou dans la dépense publique. Enfin,
3 minutes avant vos avis pour vous faire écouter Xavier Bertrand qui a fait un petit coup de gueule ce matin. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de départements en France qui sont touchés par de graves inondations, le Pas-de-Calais notamment. Et alors Xavier Bertrand l'a dit, depuis novembre dernier, il y a 200 communes de mon département qui ont été touchées. Et il y a plusieurs assureurs qui n'ont toujours pas fait de proposition d'indemnisation. Donc il dit, maintenant je dénonce tout simplement les assureurs en question. Écoutez Xavier Bertrand ce matin.
puis que je les ai cités, là, les sinistrés, les collectifs des sinistrés, à Blandec, à Arc, tout ça, commencent à avoir des appels. Non, mais vous imaginez? Il faut que je vienne sur un plateau, il faut que je vienne devant la presse pour dire, vous ne faites pas votre boulot sérieusement, pour que derrière ça bouge. Et puis, si je peux me permettre, c'est mon boulot, c'est le rôle de l'État. Alors, je ne vais pas me poser de questions existentielles, moi, je le fais.
Non, mais c'est, alors ça, c'est clair, parce que 5 mois après les intempéries, la grande majorité des assurés n'ont rien touché. Et depuis qu'il en parle, beaucoup de contrats qui étaient dans l'impasse, finalement, se sont débloqués. Franck Boisiz.
Alors, ce qui est amusant dans l'histoire, il faut peut-être ne pas l'oublier, c'est que Xavier Bertrand, dans sa première vie, avant d'être
il a été agent général d'assurance.
Donc, il sait de quoi il parle. Cela étant, ça
montre. Mais vous avez vu, il a vraiment balancé les noms des assurés.
Ça montre une chose, c'est que le name and shame, ça fonctionne. Effectivement, j'étais tenté de ramener ça. Avant cette émission, j'ai regardé quelques résultats des grands groupes d'assurance.
Ils se portent pas trop mal.
AXA, 7,6 milliards, plus 27%.
Oui, mais voilà. Le risque assurantiel est de plus en plus élevé. Vous voyez ce rapport qui est sorti aujourd'hui comment préserver l'assurabilité du territoire français.
L'assurantiel est de plus en plus élevé, vous avez raison. Oui. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que le secteur de l'assurance, qu'il soit mutualiste ou privé, n'est pas en danger face à l'augmentation, pour le moment, de la sinistralité.
Stéphanie. Enfin,
couvrir les catastrophes naturelles, ça va être de plus en plus compliqué pour les assureurs. Donc, le risque, c'est que ces assureurs reviennent vers l'État pour dire qu'il va falloir être... que ce soit un choc, qu'il soit un risque qui soit protégé.
Mais il sera mutualisé comme il l'a été jusqu'à présent.
C'est leur métier.
Sébastien qui applaudissait en écoutant Xavier Bertrand, je peux le dire. Non, ça vous a plu ce que dit Xavier Bertrand.
Oui, il a 100% raison. Je dis pas ça uniquement parce que c'est un ami. Hein. Bon, j'étais heureux de le voir. Non, mais normalement, la gestion des risques dans ce système-là, c'est l'assurance, aussi les réassureurs. Il faut éviter quand même de se retrouver dans des situations comme ce qu'on a par exemple aux États-Unis ou en Floride. Vous avez des assureurs qui viennent du fait, par exemple, du risque climatique et de la proportionnalité des eaux, qui n'assurent plus, par exemple, certaines maisons. Donc il vaut mieux prendre le problème à bras le corps dès maintenant.
Mais on commence à avoir ce problème.
Ça c'est autre chose, parce que quand une compagnie d'assurance vous dit je ne vous assurerai pas, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Là, quand on paye tous les mois son contrat d'assurance, c'est un pacte de confiance qui est quand même trahi.
Mais cela étant, quand ça traîne, finalement, c'est peut-être aussi une forme de stratégie de la part des assureurs. C'est-à-dire que quand on sort l'argent, si vous me passez l'expression un peu triviale, plus lentement, ça se retrouve dans le bilan à la fin de l'année.
Mais je suis d'accord avec vous, c'est l'illustration que le name and shame, ça parle, puisque Xavier Bertrand a balancé des noms et il a quand même reçu des coups de fil des assureurs question petit à petit. Allez, 3 minutes, c'est l'heure de l'extra time sur BFM Business. Comme tous les soirs, vos humeurs du soir, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes. C'est la règle impitoyable de cette... émission. Sébastien, est-ce que vous voulez commencer à les 30
secondes? Oui, aujourd'hui, les 50 ans du décès de Georges Pompidou, c'était une époque d'ambition économique, de renouveau industriel. On avait gagné 20% en qualité de vie au niveau de PIB par habitant. Ça paraît exceptionnel. C'est peut-être la dernière année où on a eu des résultats économiques exceptionnels en France.
Et donc, il faut méditer le message
Un peu de nostalgie.
Méditer le message de Georges Pompidou.
Exactement.
Voilà. Le coup de cœur ce soir.
Le message est passé.
Sur BFM Business.
Stéphanie Villers.
On parle de la nécessité d'augmenter le taux de participation en France. Et alors on a augmenté la participation des jeunes grâce à l'apprentissage. Ouais. On a augmenté la participation au marché du travail des seniors grâce à la réforme des retraites. Et on oublie en fait que la participation des femmes en France est plus faible que dans les autres pays européens. Il faudrait peut-être s'attarder à ce sujet-là. Et on voit que en fait le taux de participation des femmes commence à baisser à partir du premier enfant. Donc la parentalité pose problème. Il faudrait quand même trouver.
Il faut écrire une tribune là-dessus.
Oui, c'est le prochain sujet. Après l'emploi des seniors, l'emploi des femmes, effectivement, qui est un vrai sujet. Franck veut nous parler de la SNCF, si j'ai bien compris ce soir. 30 secondes, Franck.
Plus globalement, du train, j'ai l'impression qu'on est toujours le low cost de quelqu'un. C'est-à-dire que la SNCF, qui est allée sur les terres espagnoles avec sa filiale low cost Ouigo, rencontre quelques difficultés, puisque le gouvernement espagnol est très mécontent de l'arrivée finalement de Ouigo en Espagne, en disant finalement, cette entreprise qu'on a laissé venir chez nous fait concurrence à notre propre chemin de fer. Et donc, ils envisagent de les dénoncer carrément et de les traîner devant l'autorité de la concurrence locale. Donc, ce qui fait que finalement, c'était ma conclusion, à vouloir casser les prix, on est toujours le low cost de quelqu'un.
Vous vous rendez compte, on a trouvé quelqu'un qui se plaint des tarifs trop bas à la SNCF sur les Google. Ça fait quand même le feu, là, pour le coup. Là, voilà.
Bon, et alors que nous, en face, on accueille des trains italiens.
Ouais. On accueille des trains italiens, mais bon, qui pour le moment ont pris une part de marché au degré assez modeste.
Bah oui, mais on n'en est qu'au début.
C'est le mot qu'on puisse dire. Bah voilà pour vos coups de cœur et vos coups de gueule ce soir. l'Extra Time. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de BFM Business ce soir. Stéphanie Villers, économiste et conseillère économique chez PwC France. Sébastien Lay, entrepreneur économiste à la Fondation Cocorde. Et puis Franck Boisy, journaliste au quotidien Libération, journaliste économique. Merci beaucoup à tous les trois.
Bonsoir.
À très vite, avec grand plaisir, pour d'autres aventures. 19h55, c'est fini, nous, pour aujourd'hui.
Mais oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Ceci dit, pas de panique, puisque le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis, bien sûr, on se retrouve demain soir.
Bien sûr qu'on se retrouve demain soir, 18h-20h, pour nouvelles aventures. Tech & Co, François Sorel, Frédéric Simotel et toute l'équipe. Dans un instant, très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.